Thierry Bord. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Espace Public de novembre 2016. Une émission dédiée à la vie municipale de Bourgoin-Jallieu cette fois-ci. Vous vous souvenez peut-être que nous avions reçu il y a 2 ans et demi tous les candidats aux élections municipales et parmi eux celui qui est devenu maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui. Alors, en cet automne particulièrement propice à l'actualité politique, et alors que la commune bergérienne connaît de nombreuses évolutions, monsieur le maire, nous avons souhaité vous rencontrer pour faire un point d'étape et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.
Voilà donc un petit peu plus de 2 ans que nous nous sommes rencontrés au sein de cette même émission. De l'eau a passé un peu sous les ponts, vous avez été élu maire de Bourgoin-Jallieu et vous avez pu mettre en place différentes politiques publiques dans la commune et c'est pour ça qu'on vous a invité pour en parler, pour voir un peu tout ce qui s'est passé depuis. Alors on va vous proposer de parler de différentes thématiques, l'urbanisme, la culture, l'environnement et tout ce qui fait le quotidien de la commune de Bourgoin-Jallieu. Donc voilà, si vous voulez bien, on peut commencer par l'urbanisme parce
bien
que
sûr.
C'est ce qui touche au quotidien de tous les auditeurs, de tous les bergaliens. Et beaucoup de chantiers sont en cours, notamment à Champfleury.
Alors il y a des chantiers à Champfleury, il y a des chantiers au centre-ville. C'est vrai que d'ici assez peu de temps, d'ici quelques mois, nous aurons une ville qui sera assez profondément transformée pour le meilleur. À Champfleury, on arrive au bout du chantier de la rénovation urbaine. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, à la fois au plan commercial, au plan d'urbanisme, au plan des espaces verts. C'est un peu la dernière pièce du puzzle avec la création du parc à l'endroit de l'ancien immeuble Chopin, un grand parc de 1 hectare en plein cœur de ce quartier qui sera, je pense, le dernier élément dont on a besoin pour l'animation de ce quartier de Bourgoin-Jallieu, qui est évidemment un quartier très important en termes de population, en termes de symbolisme. À travers ce parc, donc, on aura cet espace vert. Et puis il y a tout le reste, il y a le centre commercial qui est maintenant achevé, qui vit avec l'arrivée de la supérette, avec l'arrivée du relais postal. On aura d'ici un an à peu près la nouvelle médiathèque que va construire la Capi, dans le quartier. On a le terrain de foot synthétique qui se fait à Prépommiers. Donc tout ça, c'est vraiment un quartier vivant avec des commerces, avec des habitants, avec des services publics, avec des lieux de promenade. C'est ce qu'on souhaitait en tout cas pour Champfleury.
Donc c'est un projet de rénovation urbaine avec l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, et 7 ans de travaux à peu près, et ça va être terminé complètement en 2017.
Absolument.
2018.
Non, en 2017, on est vraiment sur l'achèvement du chantier, notamment avec le parc du Chopin, on verra si on l'appelle comme ça ou autrement, qui était le dernier élément.
Oui, et alors c'est assez symbolique, non, remplacer un immeuble, le Chopin, par un parc, par un espace vert.
Bah ça c'est vraiment le choix qui a été fait dans le cadre de la rénovation urbaine telle qu'elle a été conçue à l'époque par Jean-Louis Borloo principalement. On voit bien que cet urbanisme des années 70 qui a donné naissance à ces grands immeubles, ces grandes tours, finalement, et pas ce qu'on a fait de mieux en termes de convivialité, d'humanité, de vie dans les quartiers. D'où l'idée, effectivement, de remplacer des immeubles par des espaces verts, et puis aussi, parce qu'en réalité c'est surtout ça l'objet, de remplacer ces grands bâtiments par des plus petits bâtiments, mieux insérés dans leur environnement urbain, à taille plus humaine. Et c'est ça qui a été fait, je pense qu'effectivement c'est une très bonne chose.
Alors un lieu de vie, vous le disiez, donc des habitations, des commerces, il y a des habitants qui vont arriver, et est-ce que les commerçants se arrivent aussi ?
Alors les commerçants, ils sont là, hein, dans le nouveau centre commercial et puis autour de la place. Le dernier élément auquel on était très attaché, c'était effectivement d'avoir une supérette, c'était vraiment une demande des habitants. On a mis longtemps à pouvoir remplacer le Norma par un nouveau local et c'est par un nouveau commerce. Maintenant c'est chose faite. Les habitants, ils sont là. L'idée, c'est pas d'augmenter la population totale du quartier. Donc on a détruit le Chopin, on construit d'autres immeubles. Il y a un ou deux autres projets qui sont encore prévus, dont il faut voir à quel rythme ils pourront se commercialiser et donc se construire. On est pratiquement au bout de ce point de vue-là. Il n'y aura pas de grandes arrivées d'habitants à Champfleury dans les années à venir.
Alors la supérette, vous en parliez, elle a ouvert en septembre, c'est ça. Et alors, un rôle particulièrement important, parce qu'il y a eu un grand combat autour du maintien de la poste dans le quartier, et finalement c'est la supérette qui fait office de relais postal maintenant.
Tout à fait. Nous, on avait, en réalité, la poste a, contre notre souhait, hein, a décidé de fermer le bureau de poste qui existait à Champfleury. Bon, c'est la politique de la poste, elle a tendance à fermer progressivement tous les bureaux qui sont soit dans des quartiers, soit dans des petites communes. Nous, il nous semblait que, avec un quartier de 6000 habitants, c'était tout à fait suffisant pour justifier le maintien de ce bureau, mais ça n'a pas été la décision de la poste. À partir du moment où la poste décidait ça, nous, on a toujours dit qu'on n'était pas en mesure de remplacer, parce que la poste, pour elle c'est facile, elle dit mais on va le fermer, mais si vous voulez payer vous-même le bureau à notre place, ça nous pose pas de problème. Mais ça, évidemment, alors que nous on a de moins en moins d'argent, on peut pas suppléer au désengagement de la poste, mais on voulait pas qu'il y ait plus de service postal à l'intérieur du quartier de Champfleury. C'est pour ça qu'on a beaucoup discuté effectivement avec l'ensemble des commerçants, et en particulier à partir du moment où on avait cette perspective de voir la supérette s'installer avec les responsables de la supérette. Et ils ont donné leur accord pour avoir un relais postal qui, en réalité, à l'arrivée, apporte un service qui est presque aussi complet que celui du bureau de poste. Il y a quelques services qui sont plus assurés, mais la grande majorité des opérations que les utilisateurs, dont les utilisateurs peuvent avoir besoin, sont assurées, et avec des horaires qui sont beaucoup plus importants, puisque c'est les horaires d'ouverture de la supérette. Donc finalement, je trouve que c'est une solution qui répond quand même pas mal aux besoins du quartier. On a plutôt des retours assez positifs par rapport à ce fonctionnement-là.
Tout est bien qui finit bien du côté de la poste.
C'est ça, ça a été beaucoup de travail.
Et la médiathèque, elle va arriver très rapidement aussi.
Alors il faut qu'elle se construise, hein. Ça prend un certain temps pour aménager, parce que là en gros il y a les murs et il faut tout aménager à l'intérieur, mais je pense d'ici un an environ on devrait avoir cette nouvelle offre.
D'accord, du coup c'est une contrepartie en équipement intercommunal par rapport à la piscine qui va partir vers Champaret.
Oui, on peut le voir comme ça. En réalité, la médiathèque, pour nous, c'était vraiment une nécessité, parce que jusque-là, il y avait la médiathèque qui était dans les préfabriqués, qui n'était pas dans des conditions d'accueil satisfaisantes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la décision a été prise par la CAPI de repositionner la piscine sur l'est de l'intercommunalité, donc de fait à Champaret, pour nous, c'était important qu'il y ait un service public de proximité qui demeure. Et c'est vrai que cette médiathèque, ben, ça apporte ce service-là. Ce sera une vraie médiathèque de 300 mètres carrés, donc vraiment un espace de vie, de culture. Et je pense qu'en termes de vitalité du quartier, c'est effectivement, ça aurait été sans doute intéressant de maintenir la piscine sur Champfleury, mais ça, c'était pas possible compte tenu de la décision de la CAPI. En tout cas, c'est bien d'avoir cet équipement-là qui sera disponible et qui répondra aux besoins des habitants.
Très bien. Eh bien, le quartier de Champfleury, donc en pleine évolution, en pleine transformation, et ça se termine. On va passer un petit peu plus loin, enfin, ou un peu plus près, au contraire, du côté du centre-ville. Là aussi, c'est un quartier c'est un grand quartier qui se transforme, au point même qu'il y a un nouveau quartier dans le centre-ville qui est en train de voir le jour. Donc, c'est la Folatière.
Oui. Alors en fait, c'est ça qui est assez remarquable dans ce qui se produit. Je pense que c'est pas si fréquent dans la vie des communes. On a un centre-ville qui se renouvelle entièrement et qui le fait avec deux très gros chantiers qui sont menés de manière à aboutir à peu près en même temps. C'est-à-dire que d'ici moins d'un an, nous aurons à la fois un nouveau quartier entièrement, enfin, qui est vraiment sorti de terre à la Folatière, sur le site de l'ancien hôpital, et une nouvelle rue piétonne, puisqu'on est en train de la refaire entièrement, avec un calendrier qui est assez en avance sur ce qui était prévu initialement, et on s'en réjouit, puisque ce sera pratiquement terminé à la fin de cette année pour les travaux principaux, ceux qui touchent à la rue piétonne. Après, il y a encore des travaux sur les rues latérales, notamment pour la pose des canalisations. Mais tout ça va aboutir à vraiment un nouveau centre-ville, avec cette rue piétonne entièrement rénovée, avec le quartier de la Folatière et avec une circulation qui est vraiment organisée entre ces deux pôles, pour aboutir à un centre-ville qu'on espère équilibré, harmonieux, autour de plusieurs pôles. On a le nouveau parking Hector Berlioz avec ses 150 places. On a la rue piétonne entièrement rénovée et dont tout le monde constate à quel point ça n'a plus rien à voir en termes d'attractivité, de beauté, d'agrément, de circulation, etc. Et on a le nouveau quartier de la Folatière. Et puis le dernier élément, ce sera la place Carnot, la place de l'église. Une fois qu'on aura fini tout ça et qu'il ne sera plus basse vie pour le chantier, on pourra aussi refaire la place de l'église. Et à ce moment-là, on aura un centre-ville vraiment tout neuf, pas seulement avec un élément, mais l'ensemble du centre-ville qui sera le vrai centre-ville qu'on souhaitait pour une ville-centre et une ville attractive, dynamique, au plan commercial, au plan de la qualité de vie. Donc vraiment l'aboutissement d'un projet d'ensemble.
Alors ça se fait pas forcément sans grincement de dents. Il y a des arbres coupés dont on a entendu parler ces derniers temps.
Bien sûr,
c'est le prix à payer.
Oui, enfin c'est les arbres qui sont coupés notamment sur l'avenue du Maréchal Leclerc, c'est pour une raison bien particulière. D'abord, chaque arbre qui est coupé, c'est un crève-cœur, hein, on se le cache pas. Mais parfois c'est inévitable. Et ce qui est important, c'est à l'arrivée d'avoir une ville plus verte, et c'est bien notre intention. Donc avenue du Maréchal Leclerc, on coupe des arbres parce que en réalité, lorsqu'on a hérité en quelque sorte du projet de la Folatière, il y avait l'avenue du Maréchal Leclerc rien n'avait été prévu pour l'avenue du Maréchal Leclerc. Or, les études ont montré que pour l'accès au nouveau centre commercial et au supermarché Cora, on a absolument besoin d'avoir deux voies. Une voie pour l'accès au Cora et une voie pour la circulation. S'il y a une seule voie, elle sera bloquée par les voitures qui accèdent au centre commercial. Donc ça, pour passer de deux fois une voie à deux fois deux voies, il faut il faut se réapproprier l'espace central qui aujourd'hui était consacré au stationnement et aux arbres. Ce qu'on a décidé par ailleurs, c'est d'abord d'avoir un certain nombre de places de stationnement en stationnement longitudinal à l'extérieur de cette avenue, et surtout de replanter beaucoup plus d'arbres tout autour du quartier de la Folatière. On doit couper 25 arbres à peu près, mais au final on en aura replanté le double pour vraiment avoir un espace arboré, c'est ça qu'on souhaitait.
Voilà, donc un bilan plutôt positif du côté des espaces verts, parce que il n'y a pas plus que ces arbres. Donc vous avez parlé du parc Chopin.
Tout à fait. Non, mais les espaces verts augmentent régulièrement à Bourgoin-Jallieu, et c'est quelque chose auquel on était très attaché. Et d'ailleurs, c'est à la fois un bénéfice pour la qualité de vie. C'est aussi un souci parce que ces espaces verts, il faut les entretenir. On a des effectifs qui sont plutôt en diminution compte tenu de nos moyens budgétaires qui sont en baisse avec l'État qui a décidé de réduire les dotations aux collectivités locales. Donc c'est un effort permanent, et je rends hommage aux agents municipaux qui en sont responsables. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec autant ou un peu moins d'effectifs d'entretenir encore plus d'espaces verts. Mais c'est notre souhait, parce que c'est vrai que par rapport à la qualité de vie, c'est vraiment un des éléments auxquels les habitants sont le plus attachés, et c'est normal. C'est la verdure, c'est les espaces verts, c'est les arbres, et donc on y veille.
Alors ces difficultés que vous évoquez sont celles peut-être qui expliquent peut-être ces petites tensions qu'il y a eu entre les syndicats, le personnel communal et vous.
Il y a des tensions, c'est vrai, qui sont pas inhabituelles. On est dans un contexte de restrictions budgétaires assez important. Il faut quand même que vos auditeurs en aient conscience. L'État a décidé de baisser les dotations aux collectivités locales. Pour une commune comme Bourgoin-Jallieu, ça représente 2 millions d'euros en moins. Donc 2 millions d'euros, c'est une somme colossale. Si on devait trouver 2 millions d'euros uniquement en réduisant les effectifs, ce serait 70 ou 80 postes en moins. Pour donner une idée de ce que ça représente par rapport à 500 agents qui sont le nombre total des effectifs de Bourgoin-Jallieu. Alors évidemment, il est hors de question de réduire nos effectifs de 70 postes, donc on fait des économies partout. On en fait un peu sur la masse salariale, on en fait un peu sur le fonctionnement, en réduisant les moyens dont on dispose des services pour l'administration courante. On renonce à certains projets, on décale certains investissements. Enfin, dans tous les domaines, on fait des économies. Et ça, c'est vrai que c'est un effort constant qui est difficile et qui pèse en partie sur les agents, il faut le reconnaître, parce que ils sont un peu moins nombreux, ou en tout cas pas plus nombreux, alors que finalement, on a beaucoup de projets, les habitants leur demandent beaucoup de choses, et donc pour eux, ça les place dans une situation qui est une situation compliquée. Et donc, on parle de ça avec les organisations syndicales, et c'est parfaitement normal. Alors, elles nous demandent beaucoup de choses, certaines qui sont possibles, donc ils sont moins. On a un dialogue qui vise à essayer de trouver les points sur lesquels on peut répondre, et quand on ne peut pas répondre, à expliquer pourquoi les contraintes qui s'imposent au nom, à nous, notamment les contraintes budgétaires, fait que on ne peut pas répondre positivement à toutes les demandes qui sont faites. On a eu un point assez détaillé il y a un mois à peu près. Je les revois régulièrement. Je les ai revus récemment. On essaye d'avancer.
Bien. Alors, puisqu'on est dans la vie municipale et en rapport avec l'environnement, vous avez nommé donc un nouveau conseiller municipal délégué à l'entretien des espaces publics, qui est donc Thierry Fabry, et qui vient en remplacement de Joseph Benedetto.
Alors, ce n'est pas un remplacement. Joseph était, il avait en charge l'embellissement, qui était une délégation qui ne fonctionnait pas tout à fait, parce qu'en réalité, l'embellissement, c'est en quelque sorte intégré à d'autres délégations, notamment quand on fait la voirie, on s'occupe aussi des arbres. Quand on fait l'urbanisme et la gestion des espaces, on s'occupe aussi des espaces verts. Donc cette délégation fonctionnait pas très bien, c'est pour ça que j'en ai changé, et puis pour d'autres raisons. Et Thierry Fabry est pas sur la même délégation. Thierry Fabry, il est sur l'entretien des espaces publics. L'idée est un peu différente, c'est d'avoir une délégation qui est en lien direct avec la démocratie participative et aux demandes des habitants. En fait, ce qu'on constate depuis 2 ans, on a beaucoup relancé la démocratie participative et donné beaucoup plus de rôle au conseil de quartier, c'est que une grande partie des demandes touche à l'entretien de la voirie, l'entretien des espaces verts, le fait de revoir tel morceau de route où il y a un problème. Et par rapport à ça, c'était important d'avoir un élu qui fasse l'interface entre les demandes qui sont adressées par les conseils de quartier et l'administration qui doit y répondre qui est en charge du suivi de la démocratie participative. Et donc c'est ça précisément que sera le rôle de Thierry Fabry. Du coup, en lien à la fois avec Jean-Claude Pardal qui est en charge de la voirie et avec Aurélien Leprêtre qui est en charge de la démocratie participative.
Très bien. Eh bien, on va en profiter pour faire une petite pause musicale et on revient juste après.
Except for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Except for the light where we'll never die, under the moonlight we'll start all on fight. Except for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Heads up all the way, cause it's too late to be afraid. There's no time to rest, I wanna go and see what's next. I see colors all around, I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light where we'll never die. So on fight, except for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Except for the light where we'll never die, under the moonlight we'll start so on fight. Except for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers.
Heads up on the road, all the stars begin to glow, carrying away all the shadows, carrying us, carrying you. Differences that make the richest not for soul. It's time to walk around and try to find a sound. Way up near the cloud and way down in the ground. Heads up for the light where we'll never die. Under the moonlight we'll start so on fight. Heads up for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Heads up for the
heads up for the light where we never die, and the moonlight we'll start to on fight. Heads up for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Heads up for the light.
Alors on est bien sûr Couleur FM, toujours en compagnie de Vincent Schricky, maire de Bourgoin-Jallieu, et dans l'émission Espace Public. Alors nous avons parlé des chantiers qui se passent à Champfleury, au centre-ville. Il manque encore peut-être deux ou trois choses dans les dans les chantiers en cours ou à venir. On parle d'un commissariat, on parle peut-être d'une rénovation de tribunal.
Tout à fait. Alors on a cette chance de voir un certain nombre de dossiers aboutir, qui sont des dossiers qui relèvent de la compétence de l'État, mais pour lesquels on va dire qu'on aiguillonne les services de l'État depuis un certain temps pour obtenir des décisions, et maintenant on y est. Donc on s'en réjouit beaucoup avec mon équipe, et j'en remercie le préfet, le sous-préfet et tous ceux qui ont œuvré pour obtenir ces résultats. S'agissant du commissariat, donc nous aurons un nouveau commissariat qui sera construit en face de l'actuel, dans l'espace d'Idrich. C'était absolument indispensable. On avait un commissariat qui était profondément vétuste, absolument pas adapté, avec des conditions de travail vraiment affligeantes pour les agents, pour les policiers nationaux, et aussi des conditions d'accueil pour les victimes et l'ensemble des utilisateurs de ce service public qui était vraiment indigne. Donc il y aura un commissariat tout neuf qui va être construit, et ça on s'en réjouit beaucoup. Et c'est vrai que plus récemment encore, il y a 2-3 mois, on a eu la décision positive pour l'extension du tribunal. Là aussi on a un tribunal qui est vraiment dans un état déplorable, en partie en cause des décisions sans suite de l'État, puisque on avait décidé à l'époque de la réforme de la carte judiciaire qu'il y aurait un tribunal du Nord-Isère à Villefontaine. Ça n'a jamais été fait, mais en même temps, comme il y avait la perspective de ce tribunal-là, on ne faisait pas de travaux ni à Vienne, ni à Bourgoin-Jallieu, parce qu'on allait partir un jour à Villefontaine. Donc toute cette plaisanterie a duré pendant presque 10 ans, et puis un jour, l'État a fini par dire « bon, finalement, il n'y aura pas de tribunal à Villefontaine, et donc, c'est vrai que ce serait pas mal de rénover les tribunaux de Vienne et Bourgoin-Jallieu, puisqu'ils étaient déjà vétustes à l'époque, et 10 ans plus tard, ça ne s'était pas amélioré. Donc, il y a eu enfin des décisions en ce sens-là, maintenant, c'est fait, les crédits ont été affectés, les projets sont lancés. Et on a des discussions qui sont vraiment très constructives avec les services de l'État et avec le ministère de la Justice pour l'extension sur site du tribunal de Bourgoin-Jallieu. Je pense que c'était vraiment la bonne décision, et ce sera mis en œuvre dans les prochaines années. D'ici pas trop longtemps, d'ici quelques années, on aura à la fois un commissariat neuf et un tribunal refait à neuf, avec des locaux parfaitement fonctionnels, tout en préservant le caractère un peu historique du bâtiment actuel. Et je pense que vraiment c'est une très bonne chose pour les services de l'État, et c'est aussi une très bonne chose pour la ville de Bourgoin-Jallieu.
Très bien. Alors dans les perspectives encore, c'est le quartier où nous sommes, où nous enregistrons actuellement, le quartier de la Gare.
Oui.
Donc projet Urbagare.
Alors c'est le projet Urbagare, ça c'est le grand projet plutôt du mandat prochain. Là on est en train d'y travailler de manière très active avec la CAPI, qui aura certainement la responsabilité de l'aménagement de ce nouveau quartier, parce que c'est un projet qui est d'envergure intercommunale. L'idée c'est d'avoir sur ce site, là où il y a les magasins généraux et l'ensemble de ces terrains, un nouveau quartier qui change de terre, avec des logements et puis surtout avec des bureaux, du tertiaire, parce que c'est vraiment l'endroit où on a de quoi faire un mini quartier d'affaires à l'échelle de Bourgoin-Jallieu en étant à côté de la gare. C'est la principale demande des entreprises lorsqu'elles doivent implanter des bureaux, c'est d'avoir la proximité des moyens de communication. Et puis sans doute aussi des services publics, une école ou peut-être un équipement culturel. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Alors, pourquoi le projet du mandat prochain? En fait, ça ne veut pas dire qu'on est inactif. On est en train de faire les études. On est en train de discuter aussi avec la SNCF, qui est propriétaire d'une partie des terrains, pour savoir de quel terrain elle pourrait céder pour que on envisage la suite. Donc tout ça c'est en cours et ce qu'on souhaite c'est d'avoir un projet qui soit pratiquement finalisé à la fin du mandat pour que on puisse construire tout au long, enfin en début de mandat suivant et avoir ce beau quartier qui se développe. Je pense que ce sera vraiment une très très belle opportunité pour Bourgoin-Jallieu. Et puis on retrouvera un autre site pour Couleur FM, on n'est pas inquiet.
Oh, ça, nous ne sommes pas inquiets non plus. Et merci d'y avoir pensé, en tout cas. Et alors pour terminer sur ces chantiers urbanistiques, bah, Couleur FM, justement, vous savez qu'on est toujours très sensible par rapport à l'environnement. Et il y a quelque chose que vous avez développé aussi, c'est le réseau de chaleur.
Tout à fait. Alors, le réseau de chaleur, c'est vraiment un très très beau projet. Donc, c'est quoi le réseau de chaleur ? Le réseau de chaleur, ça consiste à utiliser une énergie qu'on produit de toute façon, qui est l'énergie qui résulte de la combustion des ordures ménagères dans l'usine d'incinération des ordures ménagères, ici à Bourgoin-Jallieu. Et cette chaleur-là, au lieu qu'elle parte en fumée, littéralement, de l'utiliser pour chauffer de l'eau, et cette eau est utilisée ensuite pour chauffer des logements ou des équipements. Et donc c'est vraiment, on remplace une énergie qu'on utilise, qu'on obtient en brûlant des énergies fossiles, en brûlant du gaz ou du fioul, qui du coup nous conduit à importer ces énergies fossiles, conduit à renvoyer dans l'atmosphère des tas de choses qu'on préférerait pas renvoyer dans l'atmosphère, et notamment du CO2, du gaz carbonique, qui évidemment contribue au changement climatique. Au lieu de ça, ben on utilise cette énergie qui sinon serait perdue pour chauffer des logements, pour chauffer des équipements. Donc c'est vraiment, environnementalement, c'est vraiment un vrai gain. Et c'est aussi un gain économique parce que finalement, au lieu d'utiliser du gaz ou du fioul qui ne font que devenir de plus en plus rares, donc qui un jour deviendront de plus en plus chers, même si aujourd'hui on est dans une période plutôt de prix bas pour les énergies fossiles, mais ça ne durera pas. Bah, au lieu de ça, on a une énergie dont on sait exactement quel sera le coût. C'est indexé, ça ne bougera pas. Et donc, même du point de vue économique, je pense que c'est vraiment intéressant pour les utilisateurs. Donc, on est très heureux d'avoir pu développer ce projet-là.
Oui, voilà, ça existait avant vous, mais vous avez développé plus de 14 kilomètres, c'est ça de,
c'est ça.
De
alors, en fait, le projet avait été lancé par la précédente majorité. C'est sous mon mandat que ça a été mis en œuvre, qu'on a discuté avec le délégataire pour affiner le déploiement. Et effectivement, on a un nombre de raccordement qui est encore supérieur à ce qui était prévu. Donc, pour
j'ai
nous, c'est un
beau
projet.
De la population, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça.
Très bien. Alors, on va passer peut-être à pas tout à fait autre chose. Ben, on va rester un petit peu dans l'environnement. Il y a un grand chantier qui se prépare autour de la Bourbre pour mettre en sécurité.
Oui, c'est le PAPI, qui est le plan qui permet de lutter contre les inondations, en tout cas de maîtriser les effets des inondations. On l'a signé il y a quelques jours avec le préfet et le conseil départemental. C'est un ensemble de mesures. Soit on développe des ouvrages qui permettent de limiter l'impact des inondations, notamment en ayant des zones de rétention, c'est-à-dire on permet que l'eau se déverse dans des champs plutôt que d'aller dans des zones qui sont habitées. Et puis après, il y a des actions plutôt de prévention ou de traitement du bâti pour que l'impact des inondations soit moindre. Enfin, c'est un plan d'ensemble qui est assez ambitieux. C'est de l'ordre de 5 ou 6 millions d'euros pris en charge par le département et par l'État. Mais il faut savoir qu'une inondation importante comme celle qu'on a connue il y a un peu plus de 20 ans, ça peut être jusqu'à 60 millions d'euros de dégâts, donc 10 fois plus. Donc finalement, c'est un très bon investissement qui permet d'éviter des catastrophes beaucoup plus importantes.
On est certain que les victimes des inondations en général le pensent.
Tout à fait.
Très profondément. Très 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 bien. On va refaire une petite pause et puis reprendre un tout petit peu après.
To contain the one confined.
FM, espace public avec Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu. Merci encore d'être parmi nous.
Merci Thierry Borde de m'avoir invité.
Avec plaisir, et nous continuons notre entrevue à balayer un petit peu ces politiques municipales que vous menez, que vous avez mises en place. On parlait tout à l'heure de tribunal et de commissariat. Est-ce que le contexte que nous vivons depuis quelque temps influe sur les politiques communales? Est-ce que la sécurité est quelque chose que vous tentez de développer?
Bien sûr, ça a été vraiment une de nos priorités avec Jean-Claude Pardal, mon adjoint à la sécurité, et l'ensemble de l'équipe, de développer notre politique en matière de sécurité. Alors ça a pris plusieurs formes. D'abord, on a armé la police municipale. Elle ne l'était pas, elle l'est désormais. On a renforcé un peu ses effectifs, notamment pour pouvoir élargir ses horaires et faire en sorte qu'elle puisse intervenir également en soirée, alors que jusque-là, ça se finissait les heures de service se terminaient en fin d'après-midi. Et on a mis en place tout un réseau de caméras de vidéoprotection qui ont eu un impact majeur sur la sécurité. D'une part, c'est un rôle de prévention. Une fois qu'on a mis des caméras, il y a beaucoup moins, voire plus du tout de délinquance. Alors, il y a un effet de déplacement, évidemment. Les gens peuvent aller là où il n'y a pas de caméra, mais enfin, quand même, ça diminue globalement le niveau de la délinquance. Et il y a aussi un impact sur l'élucidation, puisque c'est les enregistrements qui sont réalisés à partir de ces caméras jouent vraiment un rôle pour les enquêtes et pour retrouver les auteurs de certains délits. Et de manière générale, on a vraiment fait ça, puisqu'on parlait du commissariat, en lien très étroit avec l'ensemble des forces de l'ordre et en particulier la police. Il y a des patrouilles communes, il y a des échanges d'informations qui sont permanents. Et par exemple, pour la vidéoprotection, c'est un opérateur de vidéoprotection de la ville qui suit les images et qui a ce rôle de prévention, d'élucidation, de faire intervenir les forces de l'ordre quand il y a un problème. Et puis dès que la nuit, par exemple, quand il n'y a plus de policiers municipaux en poste, les images sont basculées vers le commissariat qui peut les utiliser. Et évidemment, quand la police ou la justice ont besoin des images pour des enquêtes, on leur fournit les enregistrements dont ils ont besoin. C'est vraiment une politique d'ensemble qui a constitué une très forte priorité. je constate que ça répondait vraiment à la demande de la population et que ça y répond encore. Notamment pour les caméras, on se demandait comment les gens réagiraient. En fait, la seule réaction qu'on a, c'est mettez-nous plus de caméras, on en veut une là, on en veut une là, on en veut une là. Alors, il y a une limite à ce qu'on peut faire, mais je pense que ça montre que maintenant, ça correspond vraiment à une demande de la population.
De la même manière pour, pour l'armement des policiers municipaux.
Oui, il n'y a eu aucune difficulté. Bon, c'est l'armement des polices municipales est évidemment une politique qui est très encadrée. Il y a des formations, il y a des exercices. Tout ça est suivi de très près. Et on a une police municipale qui vraiment a assumé l'ensemble de ses nouvelles missions avec beaucoup d'enthousiasme. Pour l'armement, par exemple, c'était quelque chose de facultatif, mais ils ont tous souhaité disposer d'une arme. Je pense que ça change un peu. Évidemment, comme toujours avec les armes, le but, c'est de jamais avoir à s'en servir, mais je pense que ça change le rôle et le regard qui est porté sur la police municipale.
D'accord. Et alors, la sécurité, ça ne se résume pas qu'à la police, c'est aussi la sécurisation des bâtiments municipaux, j'imagine. Les écoles, notamment.
Alors, les écoles, ça, c'est très important. Là-dessus, on a une priorité particulière dans le contexte des attentats. Alors, ça se traduit notamment par l'intervention de la police, effectivement. Et puis, aussi sur la sécurisation des écoles, et avec Hélène Duplat, mon adjointe aux affaires scolaires, et Jean-Rodolphe Genin, qui est en charge des bâtiments municipaux, c'est vrai qu'on essaie d'avoir une attention particulière pour les écoles et de manière plus générale pour l'ensemble des bâtiments de la ville, pour la sécurisation des bâtiments.
Oui, nous en avons longuement parlé dans notre dernière émission avec Hélène Duplat.
Tout à fait.
D'ailleurs, mais c'est effectivement une incidence assez, assez particulière sur les communes, qui est notamment sur les finances des communes.
Tout à fait.
Voilà, alors, finances justement, ça me fait penser à l'économie. L'économie à Bourgoin, donc on a beaucoup parlé de commerce. Je vous demandais tout à l'heure si les commerçants à Champfleury étaient là, revenaient, se développaient. Et dans le centre-ville, de la même manière, dans cette restructuration, il y a certainement beaucoup de place pour les commerces. Peut-être vous avez des politiques pour faire venir les entreprises. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, depuis le début de mon mandat, c'est vraiment une priorité. Mon premier adjoint, Jean-Pierre Girard, est en charge du développement économique. C'est aussi un sujet qui est largement partagé avec la CAPI, notre intercommunalité. En gros, nous, on est plus compétent pour le commerce et le commerce de proximité, la CAPI plus pour l'arrivée des grandes entreprises. Mais en réalité, il n'y a pas une distinction aussi nette, et en particulier dans ce qu'on fait en matière d'urbanisme, il y a notamment toujours ce souci de réserver des espaces pour l'industrie, pour le commerce, pour le développement économique. Mais comme je le dis, c'est une préoccupation constante et avec toute l'équipe, elle se traduit notamment par ce qu'on peut faire en matière d'animation commerciale. On a eu beaucoup d'initiatives en lien avec les travaux de la rue piétonne. Il y avait une inquiétude des commerçants, et c'est normal, sur le fait que les travaux ne devaient pas se traduire par une perte de vitesse des commerces de la rue piétonne. Et du coup, on a eu toute une politique d'accompagnement et de communication très ambitieuse, qui a d'ailleurs été récompensée. On a eu un prix national pour la politique de communication autour de la rue piétonne, le prix Capcom, où on est passé devant Bordeaux, Lille, Lyon, enfin des villes comme ça, pour la qualité de notre communication. Il y a tout ce qu'on fait au moment des fêtes de Noël et des illuminations pour que la ville soit vraiment vivante, et ça aussi c'est important pour les commerçants. Et je dois dire qu'on le fait en lien avec les commerçants qui s'investissent énormément. Il y a l'association des commerçants Passion Commerce qui est vraiment notre partenaire pour toutes ces initiatives et qui a évidemment ses propres initiatives et ses propres projets. Et je pense que c'est ça qui fait une ville dynamique, une ville où on a envie de vivre. Pour nous, la vie commerçante, la vie économique, ça fait vraiment partie de la qualité de vie, parce que s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas des commerces dynamiques, c'est pas une ville où on est heureux de vivre et où on a plaisir à se promener.
Voilà, et tout ça, avec cette restructuration, ça participe aussi à l'attractivité que Bourgoin doit avoir, pour non seulement pour développer ses commerces, mais pour les garder aussi. Oui.
Bien sûr, ouais, c'est nous notre souci, le cœur de notre politique, c'est Bourgoin-Jallieu, ville-centre du Nord-Isère, et c'est vraiment Ça a toujours été notre objectif, notre priorité. Et ça fait lien avec le début de l'émission, mais tout ce qu'on met en œuvre pour avoir ce nouveau centre-ville en particulier, ça ne veut pas dire que les autres quartiers ne sont pas également importants, mais le centre-ville, c'est un peu la locomotive qui tire tout le reste. Et je pense qu'avec ce nouveau centre-ville tel qu'on l'a conçu, ce sera vraiment le lieu où on aura envie de venir faire ses courses en venant de tout le Nord-Isère et même au-delà. Et en tout cas, c'est clairement notre objectif. Et c'est une nécessité pour garder le niveau de commerce qu'on a aujourd'hui et le niveau encore supérieur qu'on aura demain, puisque à la Folatière, il y aura un supermarché et un grand nombre de commerces supplémentaires.
Très bien. Alors l'attractivité, c'est aussi la culture dans une ville. On vous a vu notamment au Festival des Belles Journées.
Tout à fait.
Et vous nous avez annoncé sa reconduite pour l'année prochaine. C'est quelque chose d'important pour vous?
Tout à fait. C'est vraiment, enfin, avec Marie-Laure Desforges, mon adjointe aux affaires culturelles, et puis l'ensemble de l'équipe, le festival, ça a vraiment mobilisé tout le monde. On avait cette idée, ben, ça a fait le lien avec ce que je disais sur Bourgoin-Jallieu, ville-centre du Nord-Isère, pour être un peu plus connu, pour être un peu plus attractif, on avait besoin d'un événement phare. Il y a le festival Hector Berlioz à la Côte-Saint-André, il y a Jazz à Vienne à Vienne, mais il n'y avait pas d'événement de cette ampleur-là à Bourgoin-Jallieu. Il n'y en a pas encore, mais ça peut venir avec ce festival.
Il est
en pleine ascension. En tout cas, c'était important pour nous qu'il y ait ce lieu qui soit vraiment... Enfin, cet événement qui soit vraiment un élément d'attractivité, de mobilisation, d'enthousiasme à l'intérieur de la ville de Bourgoin-Jallieu. Et c'est vraiment ce qu'on a constaté, notamment depuis cette deuxième édition. La première avait été un peu compliquée. D'abord, c'était la première. Et ensuite, on a eu beaucoup de... Enfin, le samedi soir avec vraiment une pluie torrentielle. Donc, c'est compliqué dans ces conditions-là. Mais pour la deuxième édition, on a eu le temps qu'on espérait. Et puis surtout, là, on a vraiment senti l'effet festival avec des gens qui venaient, qui découvraient des artistes, qui passaient du temps sur place, qui faisaient des rencontres, tout à fait ce qu'on espérait obtenir et qui maintenant va pouvoir se développer. Je l'espère à l'avenir, en lien plus étroit avec la CAPI, pour que ce soit vraiment l'événement du territoire. Mais c'est vrai que voilà, pour nous, c'est une satisfaction de voir ce festival qui est en train de réussir et qui correspond vraiment à quelque chose qui nous tenait à cœur.
Très bien. Alors, culture, on a parlé de la médiathèque, bien entendu, qui arrivera à Champfleury. D'autres axes culturels que vous souhaitez développer?
L'autre grand projet du territoire, ce sera le nouveau conservatoire. C'est une responsabilité de la CAPI. Je pense qu'il sera... Enfin, l'idée, c'est de porter le projet pour qu'il arrive à maturité d'ici la fin du mandat et que la construction puisse se faire à partir du début du mandat prochain. C'est notre objectif avec la CAPI, avec un site qui est réservé, qui est au niveau de la maison du département et de l'école Simone Veil. Donc ça, c'est très important et ça permettra à cet équipement, qui est vraiment un équipement phare à l'échelle de l'ensemble du territoire, d'avoir les moyens de vivre et de se développer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Après, pour la politique municipale, il y a des éléments qui durent et qui sont importants pour nous. Il y a la programmation théâtrale, évidemment, auquel on est très attentif. Et il y a le musée qui a obtenu une étoile au Michelin il y a un an à peu près. C'est quelque chose dont on est très fiers et ça montre tout le potentiel de cet équipement.
Programmation théâtrale, le théâtre Jean Villard.
Alors le théâtre, ce sera pas sous ce mandat, ça c'est clair, c'est un investissement considérable dont on n'avait pas les moyens et puis il n'y a pas aujourd'hui un projet finalisé pour le théâtre. On a des pistes, on avait dit pendant la campagne que ce qui nous semblait le plus intéressant, c'était pas juste de faire un théâtre, mais de faire une salle qui puisse servir à beaucoup de choses, également à des séminaires d'entreprise, par exemple, ou à d'autres événements à l'échelle de la ville, pour vraiment participer toujours à cette idée de Bourgoin-Jallieu, ville-centre du Nord-Isère, lieu où on se retrouve pour des grands événements, qu'ils soient culturels ou économiques. Donc on garde un peu ce projet. Ça pourrait être dans le cadre d'Urbagar, c'est une des options. Pour l'instant, c'est pas arrêté comme ça. Mais d'une manière ou d'une autre, l'objectif, c'est de faire aboutir un projet et puis sans doute d'avoir ce théâtre au cours du mandat prochain.
De recréer ce lieu en tout
cet
cas.
Cet équipement, oui, ouais, ça reste l'objectif. Mais avec la rénovation de la salle polyvalente que j'ai lancée dès mon élection, qui a été un des premiers grands chantiers, et quand même important, hein, c'est plus d'un million d'euros, on a aujourd'hui une salle où c'est possible d'avoir des spectacles dans des conditions qui sont de grande qualité, avec une acoustique qui a été entièrement revue, avec une vraie scène, avec des fauteuils qui sont des fauteuils de salle de spectacle. Et donc, on n'a plus cette... La vie quand même culturelle, théâtrale, était un peu arrêtée à cause de l'absence de théâtre. Il y a eu beaucoup de travail des équipes, notamment des équipes municipales, pour développer ce concept de théâtre hors des murs, avec un théâtre qui allait à différents endroits. Mais un théâtre, ça a quand même besoin d'avoir une scène. Aujourd'hui, il y a une scène. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir un vrai équipement culturel, et c'est notre objectif.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, on va parler de choses... Je sais pas, il faut dire sérieuse ou moins sérieuse, je ne sais pas.
La culture, c'est très sérieux. En tout cas, nous, on le considère comme ça.
Voilà, et alors je vais vous demander de parler de politique politicienne, on va dire ça comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'il va y avoir des échéances électorales, tout le monde le sait, dans l'année qui vient, mm-hmm. et vous n'y êtes pas totalement étranger. Alors d'abord, mm-hmm. Dans un premier engagement, il y a là très prochainement, dans quelques jours, les primaires chez les Républicains. Vous êtes chez les Républicains, mais vous avez un candidat préféré, ça c'est un secret pour personne, vous avez été son directeur de cabinet, c'est François Fillon.
Ouais. Oui. Alors j'ai travaillé effectivement au cabinet de François Fillon, dont je suis proche, c'est peut-être en partie pour ça que je le soutiens, mais enfin il y a une raison plus profonde qui est que François Fillon a tenu tout au long de cette primaire un discours qui est vraiment un discours de vérité et de courage, en faisant un diagnostic absolument sans concession de la situation de notre pays et en disant on peut pas à la fois dire que ça va mal, dire que ce quinquennat était un quinquennat perdu avec une évolution qui n'allait absolument pas dans le bon sens et ne pas proposer un vrai projet de redressement. Et donc lui il propose un vrai projet de redressement. C'est le cas depuis pas mal de temps. Je pense que les Français s'en sont pas tout de suite rendu compte parce que honnêtement, jusqu'à la dernière rentrée, ils n'étaient pas vraiment dans la primaire. Et puis maintenant qu'ils comparent les candidats, maintenant qu'ils comparent les projets, ils constatent que il n'y a qu'un véritable projet de changement. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est celui que porte François Fillon. Et depuis que la primaire est vraiment lancée, on voit qu'il monte progressivement. Et je pense que ce sera le candidat qui créera la surprise dimanche prochain. En tout cas, moi, c'est le pronostic que je formule. On verra bien, mais en tout cas, j'encourage vos auditeurs à voter pour le projet de changement.
Ça, on l'avait bien compris. Et ça ne crée pas des difficultés dans votre conseil municipal, parce que tout le monde ne soutient pas François Fillon.
Bah, heureusement que tout le monde ne soutient pas.
Le comité de soutien d'Alain Juppé, je
crois.
Oui,
il y en a qui soutiennent Alain Juppé, il y en a qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Et heureusement, heureusement que c'est la démocratie au sein de notre mouvement. Honnêtement, ça nous permet d'avoir des vrais débats, qui sont des débats intéressants. Chacun soutient le candidat de son choix. Moi, j'organise le soutien à Fillon, donc je fais des réunions pour lui, et puis d'autres font des réunions pour d'autres candidats, et c'est très bien comme ça. Les débats qu'on a, qui sont des débats de conviction, des débats sincères, nous confortent dans le fait qu'il y a des différences, mais elles s'effacent par rapport aux différences qu'on a avec... le Parti Socialiste ou avec le Front National, et on sait très bien que le lendemain de la primaire, eh ben, on sera tous derrière un seul candidat et ça nous convient très bien à tous.
Alors au lendemain de la primaire, il y aura les présidentielles, et puis au lendemain des présidentielles, il y aura les législatives. On en parle un petit peu moins maintenant. En ce moment, pardon, mais c'est une échéance importante pour vous.
Bien sûr.
Vous avez l'investiture des Républicains.
Voilà, j'ai été choisi par les Républicains pour... avoir l'investiture pour la 10e circonscription de l'Isère, celle qui va en gros de la Ville Nouvelle, Villefontaine, Île d'Abeau, la Verpillière, en passant par Bourgoin-Jallieu jusqu'à la Tour du Pin et Pont de Beauvoisin, qui est la circonscription où je m'étais présenté en 2012. Donc évidemment, c'est une échéance qui est importante pour moi, mais enfin, comme j'ai toujours dit, pour l'instant, c'est le temps de la primaire et le temps législatif, ça démarrera en gros à partir de la rentrée prochaine, à partir de janvier. Donc à ce moment-là, Je développerai plus largement mon projet, mes intentions et la manière dont j'entends faire campagne. Mais évidemment, c'est une échéance très importante. Notre pays a absolument besoin d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour conduire une vraie politique de redressement.
Être député-maire, c'est un cumul de mandats ou c'est la possibilité de faire valoir d'autant mieux les intérêts de sa ville ?
Moi, j'ai toujours été plutôt favorable au fait de pouvoir concilier un mandat national avec un mandat local. Je pense que ça donne un ancrage. Et je pense que, d'ailleurs, c'est la position d'un certain nombre de candidats à droite, qu'on peut réfléchir à une évolution dans laquelle les parlementaires n'ont plus d'ancrage local, mais à ce moment-là, il faudrait probablement avoir moins de parlementaires qui puissent vraiment se consacrer complètement à leur mandat national. Bon, on verra ce qui se passe après la présidentielle de ce point de vue-là.
Bien, donc on risque au législatif de retrouver peut-être un face-à-face qu'on a déjà connu au municipal.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Pas au municipal, aux dernières législatives.
Aux dernières, oui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous tiendraient à cœur ?
Moi, je voudrais dire que il y a des choses qui m'ont... Enfin, dans ce mandat municipal, d'abord... On dit souvent le mandat municipal, c'est le plus beau des mandats, et aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est vrai que c'est un très beau mandat, c'est vraiment celui où on voit comment fonctionne le pays, quels sont les rapports de force, comment se montent les projets au niveau local. C'est un mandat qui est très satisfaisant parce que c'est le mandat du concret. On a des projets, on les voit aboutir. On a parlé de la rue piétonne, du quartier de la Folatière, du réseau de chaleur. Ben on les voit se faire. C'est aussi un mandat qui est passionnant parce que c'est un mandat collectif. Moi, j'ai une équipe municipale. Je veux leur rendre hommage, de même que je veux rendre hommage aux agents de la municipalité. On a énormément de projets. Les projets, ils aboutissent pas tout seuls. Il faut mettre beaucoup de pression, les faire avancer pour aboutir à des résultats. Et s'il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme autour de moi, ça pourrait pas se faire. Et ça, c'est grâce à mon équipe. Et j'en suis très reconnaissant. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant de mener une mission comme celle-là en étant entouré, en ayant la possibilité de discuter des projets pour essayer à chaque fois de trouver la meilleure solution. Donc, c'est un mandat d'enthousiasme. En tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est un mandat qui n'est pas facile, notamment dans le contexte qu'on connaît, en particulier le contexte budgétaire. On a vraiment, enfin, dès mon élection, on s'est retrouvé confronté à cette situation de la baisse des dotations qui change assez profondément la manière dont on exerce, dont on peut exercer cette mission, parce que, on a tous nos projets, mais la condition pour faire notre projet, en gros, c'est de faire des économies partout ailleurs. Il y a en permanence ces choix à faire qui sont des choix difficiles. Et là aussi, je rends hommage et je remercie à la fois mon équipe et les agents, parce que finalement, tout le monde est obligé de faire ses efforts, tout le monde est obligé de serrer la ceinture, parce que si on fait pas des économies à certains endroits, on n'a pas la possibilité de conduire nos projets ailleurs. Mais c'est ça qui fait l'intérêt du métier.
C'est délicat, parce qu'en fait, faire des économies, c'est pas toujours très populaire dans la population. On parlait tout à l'heure du personnel municipal, mais dans la population en entier.
Je vais vous dire plus, moi, j'ai pas encore rencontré une économie populaire. pourtant, j'ai beaucoup cherché, mais l'économie qui fait plaisir, je la connais pas. Mais justement, je pense que souvent on a ces discussions en interne avec mon équipe. Ils disent telle mesure c'est impopulaire, telle mesure en 2020 quand on sera candidat à notre élection, il faudra l'assumer, ce sera pas facile. Je pense qu'il faut, pour exercer cette mission avec responsabilité, il y a des moments où il faut aussi un certain courage et il faut qu'on assume collectivement, y compris les mesures impopulaires, y compris les mesures difficiles. Parce que c'est aussi ça, être à la hauteur de la mission qu'on nous a confiée. Nous, on s'est engagé en disant qu'on n'augmenterait pas les impôts. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ne pas augmenter les impôts quand on a 2 millions en moins en dotation, ça veut dire que c'est des efforts à faire tous les jours. Et d'ailleurs, on peut comparer la situation de Bourgoin-Jallieu avec beaucoup de communes moyennes ou un peu plus grandes ailleurs en France. Il y en a beaucoup qui ont augmenté les impôts, qui n'avaient pas d'autres possibilités pour faire face à la baisse des dotations. Nous, on l'a pas fait. Ça veut dire beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts sur des sujets qui sont parfois pas faciles parce que ça touche au quotidien des Bergaliens. Mais on peut pas faire... il n'y a pas d'autre solution si on veut... Ou alors on fait plus rien. Mais si on veut mettre en œuvre nos priorités, il n'y a pas d'autre solution.
Est-ce que cette baisse des dotations, pour vous, elle est légitime? Ou est-ce que si vous êtes en responsabilité nationale, finalement, si vous êtes député, vous militerez pour que le gouvernement, et qui pourrait être de droite après les présidentielles, réabonde ces dotations?
Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des choix cohérents. Tout le monde doit faire des efforts sur les dépenses, l'État doit en faire. Il faut en faire au niveau de la sécurité sociale et il faut aussi en faire au niveau des collectivités locales. Moi, c'est ma conviction. Ce que je reproche au gouvernement actuel, c'est pas tellement de baisser les dotations, c'est de baisser les dotations tout en mettant dans une situation quasiment impossible pour continuer à remplir nos missions. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, si on nous baissait seulement les dotations, à la limite, on pourrait encore s'en sortir. Mais on nous baisse les dotations tout en nous demandant d'assumer plus de responsabilités et plus de missions. Et un bon exemple, c'est les nouvelles activités périscolaires, dont on a beaucoup entendu parler dans le cadre des rythmes scolaires. La première année, l'État nous a dit « je vous enlève 700 000 euros ». Et surprise, vous allez en plus devoir faire des choses que vous ne faisiez pas jusqu'ici sans qu'on vous donne du tout le montant qui corresponde à cette dépense-là. Donc c'est ça qui est insupportable. Moi, je pense qu'un système dans lequel on aurait une réduction des dotations, peut-être pas aussi sévère que celle qu'on connaît actuellement, mais en tout cas une réduction des dotations, mais en nous disant en même temps, bah, finalement, vous allez avoir plus de liberté, moins de normes, moins de contraintes, donc vous avez moins d'argent, mais finalement, vous pouvez vous organiser différemment pour faire avec moins d'argent, ça, moi, c'est un discours que je suis prêt à entendre et que j'accepte. Mais nous dire, vous avez toujours les mêmes normes, toujours les mêmes contraintes, même encore plus, et on vous donne encore plus de choses à faire, et à côté de ça, on vous baisse les dotations, ça, c'est pas possible, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui s'en sortent pas.
Parfait. Eh bien, voilà une conclusion de vive et dynamique à cette émission. Merci infiniment d'être venu nous voir. Vous êtes le bienvenu à Couleur FM.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
Merci à Vincent Chriqui de nous avoir expliqué en profondeur la politique municipale qu'il mène avec sa majorité à Bourgoin-Jallieu. Nous comprendrons peut-être mieux désormais les transformations des quartiers bergaliens et aussi les volontés et les contraintes qui président à la gestion de la ville. Cette émission se termine. Le temps de vous dire qu'au cours de cet entretien exclusif du maire de Bourgoin-Jallieu sur Couleur FM, nous avons pu écouter deux excellents morceaux de musique. Le premier de Jane, c'était Heads Up, et le second de Portishead, Sour Times, Nobody Loves Me. Et nous nous quittons maintenant avec Björk, History of Touches. Je vous dis à très bientôt dans notre émission Espace Public sur Couleur FM 97.1.
The same moment, I wake you up in the night. Feeling this is our last time together, therefore sensing all the moments we've been together, being here at the same time every single time. Never touch each other every single fact we had together is in a wondrous time lapse with us here at this moment. The history of touches every single archive compressed into a second, all with us here as I am.